20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault, Émilien Vinet et Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission. Et à la une de notre émission est vraiment, le superlatif là est tout à fait adapté à la situation. Il s'agit de l'un des plus grands faits divers des 50 dernières années. Une affaire incroyable, la disparition, la volatilisation en quelques minutes de toute une famille, un couple et ses deux jeunes enfants. C'était il y a 45 ans, entre la ville de Cognac et un petit village qui est situé exactement à 4 kilomètres de là. Nous allons parler de cette affaire à propos de laquelle on peut toujours 45 ans après se poser les mêmes questions. S'agit-il d'un accident, d'une disparition volontaire? Et pourquoi pas d'un crime parfait? On pense aussi à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, à l'affaire Troadec, plus près de nous. Nous allons parler de tout cela dans un instant avec mes invités, mais je vais vous en dire un peu plus quand même sur le mystère tout de suite. Alors, donc, on remonte à cette soirée de Noël 1972, la soirée du 24 décembre. Jacques Méchinot, sa femme Pierrette et leurs deux enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, réveillonne ce soir-là à Cognac chez un couple d'amis. Vers 2h du matin, les Méchinot remontent avec les enfants dans la Simca 1100 couleur grenat du couple pour regagner tout simplement leur maison dans le village de Boutier à quelques kilomètres de là, très exactement 3,8 km. Et ça a son importance, on y reviendra dans un instant. Et puis alors, quelques jours plus tard, les parents de Jacques Méchinot s'inquiètent, ils n'ont pas de nouvelles de leur fils ni de sa famille, ils appellent les gendarmes, et à cette époque-là, il faut attendre un certain temps quand des adultes responsables disparaissent. Alors on attend une dizaine de jours, et puis 10 jours plus tard, les gendarmes pénètrent dans une maison, la maison des Méchinot, où le temps semble s'être suspendu. Les cadeaux de Noël des enfants sont bien rangés au pied du sapin. Dans le réfrigérateur, on va trouver une dinde, des huîtres, c'était le repas prévu pour le lendemain, le repas du 25 décembre. Sur la table du salon, il y a un carnet de chèques. Dans les armoires, il manque apparemment aucun vêtement. Et malgré d'importantes recherches de la gendarmerie de Cognac, aidés des pompiers, aidés aussi de plongeurs, eh bien, on n'a jamais, depuis 45 ans, retrouvé une seule trace de la voiture, une seule trace de cette famille qui semble s'être totalement évaporée. Alors maintenant, il faut que je vous dise pourquoi on ouvre à nouveau ce dossier énigmatique aujourd'hui dans l'heure du crime. Eh bien, c'est tout simplement parce que à propos d'une enquête dont l'auteur est l'un de mes invités, Jean Berthelot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant. Vous êtes également venu nous voir, et on l'en remercie d'être venu directement ici dans les studios de la rue Bayard avec monsieur Robert Richard. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous êtes l'ancien maire de Boutier. Alors on va donner le nom complet du village. Hein. C'est Boutier Saint-Trojan.
Exactement.
Vous avez été le maire de 1980 à 2014. Vous êtes, on peut le dire, un enfant du pays, quoi.
Tout à fait, oui.
Et tout ce que j'évoque là, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur et dont tout le monde continue à parler depuis 45 ans chez vous.
C'est un événement que j'ai connu en tant qu'habitant de la commune. Et je dirais de relative proximité, puisque j'habitais à quelques pas de la maison des Méchinot. Et c'est quelque chose que j'ai connu par la suite en tant que maire, puisque au fur et à mesure du temps, la redondance a fait que les anniversaires de la disparition des Méchinot, et puis qui plus est, c'est pas un fait commun, comme vous l'avez évoqué. C'est effectivement un grand sujet dans la commune, et à chaque fois qu'on évoque cette maison, ou voire même qu'on essaie d'aborder les problématiques actualité à Boutier, tout de suite, il vient l'affaire des Méchinot.
Ouais. Jean Berthelot, qu'est-ce qui a été le point de départ de votre enquête? C'est une histoire que vous connaissez? Vous êtes de cette région?
En fait, j'ai commencé mon parcours professionnel en 2000 à la Charente Libre et j'ai bien vu que pour les faits divers et les journalistes qui s'intéressent aux faits divers dans ce quotidien, c'était un peu la baleine blanche, l'affaire que tout le monde espère un jour résoudre de la même manière que les gendarmes, bien sûr, et puis les habitants espèrent qu'elle soit un jour résolue. Oui. Par conséquent, cette affaire m'avait interpellé et les interpellait énormément eux-mêmes parce que forcément, elle reste extrêmement mystérieuse parce que pas de traces, on va y venir, je le présume.
Bien
mais,
sûr, bien sûr.
Voilà, donc c'est une affaire que je connais depuis un certain temps et puis. Puis, j'ai bien sûr suivi ces différentes évolutions au fil des années 2000. Et puis, je considérais qu'il était temps d'en reparler parce que, curieusement, c'est une affaire qui n'a pas eu un écho médiatique énorme au-delà des frontières de la région.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'avais en tête en écoutant à l'instant M. Richard, parce que toute une famille comme ça qui s'évapore, enfin, c'est quelque chose qui interpelle, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autres, Monsieur Richard, avant d'entrer dans le détail sur cette affaire et sur son empreinte dans la région. Il y a quand même des gens qui savent des petites bribes de choses. Je crois que l'enquête a fait un bond en avant, grâce à vous d'ailleurs, l'enquête de Jean Berthelot.
Il y a des gens qui savent, qui peuvent connaître les motifs de l'envie de disparaître de cette famille. Puisque, bon, une liaison extra-conjugale de Mme Méchineau semble être un des justificatifs de l'annonce de M. Méchineau, qui annonçait à ses collègues de travail qu'ils allaient disparaître et qu'on ne les retrouverait jamais. Ouais. En même temps, c'est vrai que l'impact sur la commune reste fort, parce que, à la fois le côté extraordinaire de cette évaporation, comme vous l'évoquiez, et puis le fait que, dans tous les esprits, des solutions sont tentés de venir à l'idée.
Ah oui, des hypothèses. Hein,
chacun y va de son hypothèse, chacun y va de l'étranger, dans des carrières, enfin n'importe où. Quoi. Chacun est en même temps, devient un enquêteur et se dit, mais ils sont passés où,
c'est vrai que Jacques Méchineau et son épouse sont toujours sur les listes électorales du village de Boutier.
Alors, légalement, nous pourrions les retirer. Mais j'ai toujours souhaité pour ma part qu'il continue à y figurer. Bon, d'abord, pour la mémoire, je dirais, Fépi, parce que moi, ce n'était pas anodin pour moi. Et puis en même temps, j'avais l'anecdote facile, vous me direz, mais de dire, si les Méchineaux viennent voter, n'oubliez pas de me prévenir.
Voilà.
Ils ne sont jamais venus.
Voilà. Et vous avez l'habitude de dire aussi que l'hypothèse la moins invraisemblable dans cette affaire incroyable, c'est qu'ils aient été enlevés par des extraterrestres. Mais bon, il y a quand même d'autres hypothèses et on va les passer en revue dans cette émission. On entendra tout à l'heure d'ailleurs un des membres de la famille de Jacques Méchineau, l'un de ses frères. C'est une grande famille. Il y a plus de 10 frères. Frères et sœurs, je crois, Jean-Paul Méchineau. S'est exprimé à plusieurs reprises et là, tout spécialement pour l'heure du crime, très récemment. Et puis, on parlera également de recherches très importantes qui ont été organisées par un lieutenant-colonel de gendarmerie, lieutenant-colonel de gendarmerie aujourd'hui. C'est l'ancien patron, en fait, de la brigade de la compagnie de gendarmerie de Cognac, Monsieur Georges Pierini. Et il est actuellement maintenant membre des... Et c'est un des fameux gendarmes en blouse blanche. Il travaille à l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Mais quand il a été en poste là-bas, il s'était lancé un défi d'essayer de résoudre, grâce aux moyens de la police scientifique. Et il nous dira pourquoi, à son avis, il n'est pas arrivé à bon port. A tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime, aujourd'hui, cette affaire absolument incroyable, l'évaporation, la volatilisation, on manque de mots, quoi, de toute une famille, un couple et deux très jeunes enfants. Ça se passe le 24 décembre 1972. Alors, tout à l'heure, on évoquera effectivement, en 2011, il y a eu, on a beaucoup reparlé de cette affaire. Tout simplement, je crois que vous pouvez nous le confirmer, Monsieur Richard, puisque, vous n'étiez pas si, vous étiez le maire en 2011.
Oui, oui.
C'est parce que je crois qu'il y a des membres de la famille qui ont voulu vendre un terrain. Puis on s'est aperçu que quand il y avait la disparition comme ça d'une famille mystérieuse, on ne pouvait pas disposer des biens de la famille. Enfin, ça posait des problèmes.
Ce n'était pas sur la commune de Boutier-Saint-Rogent, ça. C'était sur la commune de Château-Bernard, je crois.
Oui.
Et où là, effectivement, ils se sont rendus compte que, bah, il faut la totalité des ayants droit pour finaliser une vente. Et là, en l'occurrence, mes chinos n'étant pas là, ça compliquait
la
procédure. Alors, sachant qu'en même temps, au bout de 30 ans, il y a des considérations juridiques qui font qu'on peut considérer que les personnes sont définitivement disparues au bout des 30 ans. Mais là, en l'occurrence, ça a à nouveau reperturbé le schéma et relancer encore à nouveau les différentes hypothèses et qui plus est des recherches qui ont été accompagnées à ce moment-là, qui ont été renforcées par la volonté du commandant de brigade de gendarmerie de l'époque qui a souhaité, compte tenu des moyens modernes et des nouvelles techniques qu'il pouvait y avoir, de relancer les recherches, alors toujours dans le périmètre qui avait été recherché, mais dont on peut penser que celui-ci puisse être un peu trop restreint.
Ça, c'est votre avis. Hein, voilà. Vous l'exprimez dans la revue, puisque je rappelle donc l'enquête de Jean Berthelot, donc, qui est diffusée dans le numéro de ce mois-ci, enfin le numéro de ce trimestre de la revue Sans Froid, où vous faites part, évidemment, d'un certain nombre de réflexions sur les débuts de l'enquête. Alors, justement, les débuts de l'enquête, on va y revenir ensemble, Jean Berthelot, tout de suite, et même avant les débuts de l'enquête, qu'est-ce qu'on a pu glaner comme information sur ce qui s'est passé dans ce laps de temps entre le 24 décembre 1972 et puis les 10 jours qui ont suivi, au bout desquels les gendarmes ont fini par forcer la porte de la maison et trouver cette espèce de temps arrêté dont je parlais tout à l'heure?
Rien que de très banal, au départ en tout cas, puisque les Méchinos sont partis pour fêter Noël avec deux de leurs amis, des collègues de Jacques, à 3800 mètres de là, vous l'avez dit, à Cognac, donc très proche de chez eux. Ils les embarquent dans leur Simca Grenat, ils arrivent chez leurs amis, ils réveillonnent tout à fait normalement, avec les deux enfants bien entendu. Et puis, la seule chose qu'ont remarqué leurs amis, c'est que Jacques ce jour-là était un peu plus nerveux qu'à l'habitude. Peut-être aussi qu'il faisait un peu traîner la soirée, alors même que son collègue, lui, n'était pas en vacances, puisque les Méchinos bénéficiaient de quelques jours de congé. Son collègue n'était pas en vacances, et donc Jacques Méchinos aurait fait un peu traîner la soirée, comme s'il ne voulait pas partir de là.
Et le collègue, lui, il embauchait
Il embauchait, lui, à 5h du matin.
À 5h du matin, parce qu'il travaillait pour Saint-Gobain, je crois.
C'est ça, qui était...
La verrerie, quoi.
Exactement, gros employeur de la région.
Mais ces gens-là diront après, quand les gendarmes les interrogeront, que la soirée, mis à part ce que vous venez de dire, cette nervosité, mais tout à fait banal, quoi.
Tout à fait banal. Ils n'ont même pas cette sorte d'appréhension que peuvent avoir parfois les autres lorsqu'ils laissent repartir leurs invités après un réveillon.
Oui, parce qu'ils n'avaient pas bu.
Non, Jacques Méchinos ne buvait pas. Et donc, ce soir-là, pas plus que d'habitude, ils n'avaient pas bu, effectivement. Donc, on peut exclure l'accident dû à l'alcool, hein, quoi qu'il arrive. Et ils les voient partir aux alentours de 1 à 2 heures du matin. Ils n'ont pas un souvenir très précis. Et c'est là qu'ils se volatilisent littéralement. Dans un premier temps, alors évidemment, il faut se rappeler que vous l'avez dit, nous sommes en pleine vacances de Noël, donc les enfants ne vont pas à l'école, leur absence n'alerte personne. L'institutrice était l'épouse de M. le maire, elle n'est pas plus alertée que les autres personnels de l'école. De la même manière, M. Méchinos était en vacances.
Votre épouse avait les enfants Méchinos
À cette époque, j'étais marié et mon épouse était institutrice et avait des enfants Méchinos, celui de la maternelle.
D'accord. Oui, pardon, je vous ai
interrompu. Non, simplement, personne n'est alerté immédiatement sur leur absence. La famille commence à s'inquiéter quelques jours plus tard, mais la procédure à l'époque, c'était qu'on laissait passer une douzaine de jours, entre 12 et 15 jours, avant de s'inquiéter pour une disparition d'adultes qui, en elles-mêmes, n'avaient rien d'inquiétant. Donc c'est vrai que les recherches ont sans doute un peu tardé.
Alors, maintenant, il faut s'arrêter sur, revenir sur ce qu'évoquait au tout début de l'émission M. Robert Richard, c'est le mobile. Parce que c'est vrai que j'insistais tout à l'heure en disant c'est 3,8 km, même pas 4 km, 3,8 km, moins de 10 minutes pour réaliser ce parcours. Certes, on est une nuit de Noël, mais bon, il y a un peu de brouillard, mais ce sont des gens qui connaissent très très bien la région. Et puis on peut penser, monsieur le maire, que je continue à vous appeler monsieur le maire, même si vous êtes maire honoraire, mais bon, c'est vrai que vous connaissez bien aussi les routes de votre région, quoi. Les gens du coin, ils connaissent, ils font attention, il n'y a pas de danger.
Oui, non, puis c'est pas
énorme,
c'est
quoi.
Un brouillard à couper au couteau non plus, quoi. Enfin, y a pas...
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une rivière qui coule.
Il y a la Charente.
Il y a la Charente qui coule, voilà. Mais après, on a fait des sondages. Il y a eu du monde sur le terrain hein, pour essayer de trouver...
Il y a eu un sacré remue-ménage, oui. C'est-à-dire qu'à la fois entre les plongeurs, les hélicoptères, à proximité de Cognac, autour de Cognac, il y a des sites où il y a des carrières d'extraction de pierre ou de gypse qui ont été fouillées également, qui ont été sondées sans jamais rien retrouver. Mais il est clair que la disparition soudaine, voire accidentelle, ne peut pas être crédible sur un trajet comme celui-ci. Ce n'est pas possible.
Voilà. Hein, donc je reviens à vous, Jean Berthelot. Les premières hypothèses, un accident, on ne trouve rien. Et on n'a jamais rien trouvé depuis 45 ans. Ensuite, les disparitions volontaires. Alors... Là, il y a une question qui se pose. Moi, je vous propose, on va faire une pause. D'ailleurs, je voudrais simplement dire aussi à ceux qui nous écoutent peut-être dans cette région, et, en Charente, à Cognac, peut-être même dans ce village de Boutier, si vous avez des choses à dire là-dessus ou des questions à poser, c'est le moment ou jamais. 3210, c'est le standard téléphonique d'RTL. Et autrement, vous pouvez aussi communiquer avec nous. C'est moins sympa. Par des courriels, donc par rtl.fr. On se retrouve avec mes invités dans un instant. Et là, on va parler du mobile qui paraît le plus sérieux, c'est cette relation extra-conjugale entretenue, on le sait maintenant, par l'épouse de Jacques. Et Jacques avait découvert le poteau rose. On parle de tout ça dans un instant.
RTL.
RTL,
c'est des découvertes,
mais aussi des standards.
Et des nouveautés.
RTL.
On aime la musique sur RTL. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Les disparus de Boutier, c'est comme ça qu'on appelle l'affaire que nous avons mis à la une de notre émission aujourd'hui sur cette famille qui disparaît, qui s'évapore brutalement un soir de Noël 1972. Est-ce qu'il s'agit d'un crime parfait ? Est-ce qu'il s'agit, plus banalement, on oserait dire, d'un malheureux accident de la circulation, d'une disparition volontaire ? Mais toutes ces hypothèses, évidemment, on les tourne et on les retourne dans tous les sens, mais ça fait 45 que ça dure, et on n'a jamais retrouvé la moindre trace de personne, hein, comme on le disait tout à l'heure, ni de la famille, ni même de cette voiture. Bon, alors, avant de retrouver mes invités d'aller plus loin dans cette histoire d'adultère qui a vraisemblablement été à l'origine d'un drame, en tout cas de problèmes familiaux assez rudes entre Jacques Méchineau et son épouse, parce qu'il avait appris le poteau rose. On va écouter Jean-Paul Méchineau. Jean-Paul Méchineau, c'est donc l'un des frères de Jacques Méchineau. Et on l'avait entendu sur l'antenne d'RTL le 24 novembre 2011. C'était au micro de Philippe de Maria dans RTL Matin, tout simplement parce que c'est cette année 2011 où on avait recommencé les recherches pour essayer de resonder les environs, d'essayer de reprendre l'enquête à zéro pour essayer de faire repartir l'affaire.
Ils vont fêter Noël chez des amis. Au retour, plus personne. 8 jours plus tard, la maison a été ouverte. On a découvert un sapin avec les jouets des enfants, la dinde dans le frigo, plus les huîtres. Rien n'avait été touché. Et depuis ce jour-là, plus rien.
Alors, quelles sont les hypothèses ?
Au mois de mai 72, j'ai rencontré mon frère à la foire exposition d'Angoulême, où là on a discuté entre frères, et il m'a dit, tu sais, j'ai un petit souci avec mon épouse, si ça va pas mieux, je vais partir, et jamais vous ne nous retrouverez. On s'est posé pas mal de questions, on ne pensait pas qu'il soit capable de le faire, parce qu'il adorait ses enfants, on ne peut pas savoir. Ça fait 39 Noël qu'on a un pincement de cœur le soir de Noël. On ne peut pas faire deuil d'une personne sans l'avoir retrouvée décédée. On voudrait savoir. C'est pas facile.
On retrouvera d'ailleurs dans cette émission Jean-Paul Méchineau un peu plus tard, avant la fin de l'émission. Il a été joint au téléphone par Charles de Luermoz et on diffusera un extrait de cette conversation tout à l'heure. Je reviens à l'enquête de Jean Berthelot et à Robert Richard, donc l'ancien maire de Boutier-Saint-Trojan. on pouvait se dire, mais peut-être une histoire de fantasme, une histoire d'adultère et tout. Or, en fait, vous publiez, Jean Berthelot, une conversation que vous avez eue avec l'amant. Avec, on peut donner son nom, il a accepté qu'on diffuse son nom. Il s'appelle Monsieur Maurice Blanchon et il assume parfaitement. Il dit oui, à cette époque-là, j'ai été l'amant de Pierrette, la femme de Jacques.
C'est ça, il assume parfaitement. Il sait aussi que ça a été que la découverte de leur liaison a été une source de forte tension avec entre Jacques et Pierrette.
Comment il le sait?
Et il le sait parce que sa maîtresse lui dit un jour, l'avant-veille de leur disparition, lui dit mon mari a tout découvert. Et puis il affirme, alors ça c'est lui qui l'affirme, mais que elle portait des traces de coups également. Donc elle dit, lorsqu'il a découvert que nous avions une liaison, il m'a battue. Mais quoi qu'il arrive dans les jours à venir, surtout ne t'inquiète pas. Voilà, ce sont des éléments qu'il livre d'ailleurs à la presse pour la première fois. Je lui ai demandé, voilà, il s'en était ouvert à certains enquêteurs, mais je lui ai demandé pourquoi il n'avait rien dit jusqu'ici. Il m'a dit, on m'a pas posé la question. Voilà, en tout cas, voilà de quelle manière lui a vécu les derniers jours des Méchinots.
Et c'est une personne que vous connaissez.
Oui, tout à fait.
Vous connaissez bien.
C'est le genre de personne qui répond quand on l'interroge, hein, Maurice. Ouais. C'est pas lui qui ira au devant pour dire je sais ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est bon.
Lui, il a les deux pieds dans ses bottes, hein, en disant on était adultes, responsables, avait choisi cette relation.
Il revendique pas la liaison, mais il l'assume. Quoi.
Voilà, pas de culpabilité particulière.
Non, d'autant que lui, enfin, est de toute évidence absolument étranger à l'affaire.
Il a jamais été inquiété par les gendarmes.
Alors que sa liaison puisse en être la cause, ça, il le conçoit aussi. Hein. Ça peut faire partie. Oui. Ça peut faire partie des schémas. Et vraisemblablement, ça en fait partie. Enfin, Maurice, en dehors de ça, il reste serein tant qu'à son implication dans les faits, en dehors du fait qu'il était l'amant de Pierrette Méchinot.
Mais alors, Jean Berthelot, il vous donne dans cette conversation d'autres éléments quand même, qui sont plus que des éléments de réflexion. On peut se demander si l'enquête est vraiment allée jusqu'au bout, là où elle devait aller à l'époque. Hein.
C'est vrai, c'est très étonnant et il en est d'ailleurs le premier étonné, c'est-à-dire que Pierrette lui a appris que quelques jours avant Noël, avant sa disparition donc, Monsieur Méchinot, Jacques Méchinot était parti en Bretagne voir un copain, lui qui ne quittait...
Après avoir découvert l'histoire de la relation extra-conjugale de sa femme, oui.
Voilà, il aurait retrouvé un copain en Bretagne qui aurait été un ancien militaire qui apparemment connaissait l'Australie, en tout cas je répète ce que m'a dit Monsieur Blanchon, et c'est donc au retour de Jacques Méchinot que la disparition de toute la famille a lieu. Ce qui étonne beaucoup M. Blanchon, c'est que apparemment, selon ses dires en tout cas, cet ami en Bretagne n'a jamais été entendu par les enquêteurs.
Ouais, voilà, donc peut-être que cet homme pourrait posséder des informations importantes ou qui pourraient éclairer sur les projets à l'époque. Est-ce que c'est ce que vous pensez, Robert Richard?
Moi, ce que je pense, c'est que... Enfin, ils sont décédés. C'est une position assez radicale, j'ai pas de preuves de ça.
Je
sais que Maurice, à contrario, pense, lui, qu'ils ont refait une vie quelque part en Australie.
Ouais.
Bon, moi, si je me remémore les situations de l'époque, pour quitter le territoire national, c'était pas comme aujourd'hui. On partait pas avec une carte de pêche. Il fallait présenter un certain nombre de documents aux frontières, une famille, et puis quand bien même, il reste aussi la voiture. Il y a quand même une automobile qui elle-même n'est pas autodestructrice. C'est pas mission impossible.
Ouais.
Donc il y avait ces faits-là. Et puis en même temps, moi je m'interroge, je me dis aujourd'hui, le plus jeune des enfants aurait une cinquantaine d'années, aurait 50 ans. Comment aurait-il pu accepter et laisser tout ce temps-là, lui n'étant pas directement mêlé à l'affaire, rester sans faire signe de vie, donner signe de vie à sa famille, rester ici à ses grands-parents.
Ouais.
Donc, moi, je reste convaincu que cette disparition, elle est de caractéristiques définitives et qu'elle a vraisemblablement entraîné la mort. Alors après, il y a la procédure. Comment a-t-il fait ça?
Vous êtes dans cette...
Mais moi, je suis plutôt dans ce schéma-là que de dire ils ont refait leur vie ailleurs. Aujourd'hui, ça pourrait être beaucoup plus concevable.
Xavier Dupont de Ligonnès,
Cette idée d'aller au Canada ou en Australie, c'était répandu dans tous les journaux publics. publiait des annonces, des publicités, oui. Mais c'était des organismes qui le faisaient, ça n'était pas fait oui. Sans non plus avoir approuvé son identité.
Voilà, avoir donc un minimum de documents. Laisse des traces. Quoi. Voilà. Vous avez, vous, une idée de tout cela, Jean Berthelot ?
Je dois avouer que la conviction oui. De M. Blanchon m'a un peu ébranlé. J'étais tout à fait de l'avis de M. Le Maire avant de rencontrer Maurice Blanchon. Je trouve qu'il y a matière à réflexion, d'une part parce que lui est profondément convaincu qu'il ne leur est rien arrivé de fâcheux, et d'autre part parce qu'il y a ces paroles de Pierrette Méchineau qui lui dit quelques jours avant « Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, on ira bien, tout va bien se passer, surtout ne t'inquiète pas ». Dans ces circonstances, j'ai du mal à imaginer que Mme Méchineau n'ait pas pensé elle-même au scénario du pire, c'est-à-dire que si votre mari vient vous trouver en vous disant « on va disparaître », forcément, je pense qu'elle se serait demandé, enfin voilà,
oui,
elle n'aurait pas
si elle dit ça, il y avait peut-être un projet familial, effectivement.
Exactement.
Pourquoi serait-elle muette aujourd'hui, Mme Michaud ?
Alors voilà,
oui, c'est la grande question.
Si tout s'est passé de manière idéale, comme l'évoque Maurice, mais je pense que Maurice, il est dans son rôle de ne pas souhaiter que les choses aient mal tourné.
Ah oui.
C'est plutôt bien. Pour lui, c'est une bonne conclusion.
Il vaut mieux, effectivement. Ouais. Alors, on reviendra sur tout cela à la fin de l'émission, tous ensemble. On va faire une pause. Et puis, on va écouter ce que M. Georges Pierini, qui est lieutenant-colonel donc, de l'IRCGN actuellement, donc les laboratoires de recherche de la gendarmerie nationale, qui a été le commandant de la compagnie de Cognac, qui a fait des recherches sur le terrain. Vous allez entendre ce qu'il m'avait dit au cours d'une émission précédente de l'heure du crime, qu'on en avait évoqué l'affaire déjà des disparus de Boutier il y a quelques années.
L'heure du crime sur RTL.
Voilà, le disparu de Boutier, une affaire non résolue, le mystère qui dure depuis maintenant 45 ans, et c'est pas faute d'avoir cherché. On va évoquer pendant quelques instants des recherches alors sur le terrain, menées par des gendarmes qui reprennent l'enquête à zéro, qui cherchent des éléments éventuellement à envoyer à leur laboratoire, en se disant que peut-être les progrès de la police scientifique vont permettre de résoudre l'énigme des disparus de Boutier. Alors on va écouter l'homme qui a été l'instrument de tout ça, qui a ardemment souhaité être celui qui allait résoudre le mystère, Georges Pierini, ancien commandant donc de la compagnie de gendarmerie de Cognac jusqu'en 2013, et qui est aujourd'hui chef de la division criminalistique biologie génétique à l'IRCGN. Alors, quand il arrive en 2009 sur place, quelques temps plus tard, le procureur de la République lui demande de reprendre l'enquête et d'utiliser donc ces nouveaux moyens, ces nouvelles méthodes d'investigation qui ajoutent la police technique et scientifique aux méthodes classiques de l'enquête. Et dans cette émission à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, il est énuméré, au cours de la conversation qu'on a eue ensemble, les moyens qu'il avait mis en place pour cette occasion. Et d'une manière plus générale, il m'avait raconté ce qui avait été fait pour tenter de dégager aussi de nouvelles pistes d'exploration, malheureusement sans succès.
Très simplement, on a proposé à l'époque de pouvoir utiliser quelques nouveaux moyens pour essayer peut-être de faire progresser certaines investigations. Alors, les moyens sont très simples. Je dirais que plus qu'une enquête, ce sont des investigations, mais organisées, je dirais, sur un volet purement technique. Alors, ça s'est décliné de différentes manières. La première, ça a été effectivement d'essayer de tenter de fermer des portes, parce que si l'on n'a pas pu effectivement répondre jusqu'à présent à des questions, mais où sont-ils donc passés ? Parce que c'est quand même un mystère, effectivement, très, très particulier. Ouais. Une famille entière, le père, la mère et les deux enfants de 4 ans et 7 ans, ainsi que le véhicule familial. Donc, si l'on ne peut répondre à la question « Mais où sont-ils donc passés ?», on peut peut-être au moins déjà essayer de répondre à la question.
Ils ne sont pas là.
Voilà, exactement.
Alors, il y a la Charente. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait des plongeurs qui avaient plongé la Charente, mais les eaux de la Charente, ce n'est pas les eaux de la Méditerranée. Les plongeurs n'y voyaient pas beaucoup. Et quand vous parlez d'outils nouveaux qui pouvaient être mis sur le terrain, ben, vous aviez, vous, une espèce de radar sous-marin, non, c'est ça?
Alors, c'est pas nous qui l'avions, oui. Hein, c'est en fait une originalité qui a pris naissance à la brigade nautique de La Rochelle.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc avec nos camarades gendarmes plongeurs subaquatiques, donc ça a été l'opportunité de leur proposer un terrain d'investigation dans le cadre de leur exercice d'entraînement. Ouais. Et donc ça a permis effectivement de
sonder éventuellement une carcasse de voiture au fond de la Charente.
Voilà. Alors l'exercice n'a pas donné le résultat escompté. En revanche, on a trouvé un certain nombre de voitures, dont effectivement une Porsche qui avait été dérobée plusieurs années auparavant et que le propriétaire se demandait bien où est-ce qu'elle était passée. Ouais. Et là, effectivement, dans les investigations, on tombe sur un véhicule.
Alors, on revient là à la disparition de la famille Michino. Votre sentiment d'enquêteur, c'est quoi? Vous avez un sentiment
Alors, le sentiment, il est très simple, c'est que tout est possible. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on intervient ici dans une émission qui s'intitule L'heure du crime.
Oui.
Mais
bon,
pour l'instant,
de crime, oui,
il y a, exactement, il n'y a aucune, je dirais, évidence matérielle.
Oui.
Et rien qui apparaît, effectivement, pour soutenir plutôt alors, une hypothèse qu'une autre.
D'accord. Alors, je vais jouer l'enquêteur de comédie. Dans la maison, on a retrouvé un carnet de chèques. Il n'y a pas eu de mouvement sur le compte bancaire. Le livret de famille était dans un tiroir. On imagine difficilement qu'il soit parti à l'étranger, comme ça a été dit à un moment.
Alors, il y a quand même une particularité, c'est que contrairement à ce qui pourrait se passer aujourd'hui, hein, dans notre époque contemporaine, où dès lors qu'effectivement il y a une suspicion de quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, à l'époque, c'est un petit peu l'effet à retardement.
D'accord.
C'est-à-dire, non, mais déjà, il y a un délai, c'est-à-dire que finalement, entre le réveillon de Noël et puis véritablement
les premières recherches
qui démarrent parce que l'on vient effectivement rapporter à la gendarmerie qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il s'écoule plusieurs jours.
Hein,
donc ça démarre réellement vers le 6 janvier de mémoire.
D'accord.
Donc là, il peut se passer beaucoup de choses et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui a pu se passer. Ce qui est certain, comme vous l'avez évoqué, effectivement, c'est qu'il n'y a pas eu ni de mouvement suspect en termes financiers, bancaires, l'argent est resté sur le compte. Il n'y a pas de choses de ce côté-là, effectivement, qui auraient pu laisser à penser que quelque chose s'était organisé. En réalité, une investigation, elle comporte plusieurs volets. Alors, sur le volet de l'enquête, en réalité, aujourd'hui, c'est volontairement que je fais le choix de ne pas évoquer, si vous voulez, le fond, je dirais, du dossier, tout simplement parce que ce n'est plus mon rôle. Mais par contre, en revanche, le volet je dirais technique, lui, est toujours d'actualité.
Ouais.
C'est ça qui est très intéressant.
Okay.
C'est que on a parlé des investigations sur le plan subaquatique, mais aussi, et ça, je trouvais ça fascinant, la possibilité d'aller dans des cavités, dans des endroits qui n'étaient pas accessibles à l'époque, avec les moyens qui étaient ceux des investigateurs et des enquêteurs de l'époque, et dont notamment je rends hommage donc aux militaires du peloton de gendarmerie de Laurent-Sainte-Marie, d'autres montagnes, qui sont spécialisés pour des investigations dans des milieux très particuliers. On a eu l'occasion de les voir à l'œuvre, effectivement, dans différents endroits. Donc, pour nous, c'était important, parce qu'on avait ces remontées, effectivement, d'informations, mais surtout de ressentis au travers de la population, enfin, d'une certaine frange de la population qui nous disait, mais là, oui, là, on est convaincu qu'il y a quelque chose, où on nous a dit, ou de génération en génération, on nous dit, il y a quelque chose à cet endroit. Donc, il était important pour nous de pouvoir dire, écoutez, là, on y est allé, on a mis des moyens adaptés, et effectivement, il n'y a rien à cet endroit-là. Et même, ce qui m'a surpris, c'est que certaines personnes arrivent maintenant à retourner sur ces lieux et à se promener, alors qu'ils avaient, banni à l'époque ces endroits parce qu'ils craignaient ou ressentaient quelque chose d'étrange.
C'était donc Georges Pierini qui s'exprimait dans l'heure du crime. C'était le 14 avril 2016. Dans un petit instant, après une dernière pause, on va retrouver mes invités, Jean Berthelot, journaliste dans la revue Sans Froid, Robert Richard, l'ancien maire de Boutier. Puis on réentendra dans un petit instant, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, Jean-Paul Michino, l'un des frères de Jacques. Et on essaiera d'arriver à quelques conclusions, en tout cas à celle de mes invités, en espérant que ce mystère soit un jour quand même résolu.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors c'est la toute dernière partie de cette émission consacrée à cette affaire de disparition ô combien mystérieuse. On retrouve mes invités Jean Berthelot et Robert Richard dans un tout petit instant. Je voudrais qu'on entende tout de suite Jean-Paul Michino. On l'a entendu tout à l'heure en 2011 quand il parlait des recherches qui avaient lieu. Charles de Luyermoz l'a joint là il y a quelques jours au téléphone. Et vous allez vous apercevoir, parce que en fait Charles l'appelle pour nous pour lui dire et maintenant que comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous avez évolué dans... comment vous imaginez ce qui a pu se passer? Mais vous allez voir, en fait, pour cet homme, comme pour tout le monde dans le village, on tourne toujours en boucle et on revient à cette fameuse soirée du 24 décembre 1972.
La famille l'a appris 10 jours après Noël, c'est-à-dire début janvier, par la presse, tout simplement. Et puis la gendarmerie, parce que bon, il y avait 10 jours de disparition, donc il y a eu des inquiétudes.
D'accord. Et vous, à ce moment-là, vous avez entamé des recherches ?
Disons que c'est pour surtout la famille, c'est la gendarmerie qui a commencé les recherches, qui ont abouti à rien, d'ailleurs.
À cette époque-là, vous aviez une idée, vous, de ce qui aurait pu se passer ?
Une idée, vous savez, maintenant, avec les années passées, bon, nous, on avait supposé qu'il était parti à l'étranger, mais maintenant, bon, je pense que il n'y a plus rien à espérer, quoi. Mon sentiment, ben, je vous dis, moi, au départ, c'était la disparition, parce qu'il avait fait plusieurs voyages en Australie. On pensait qu'il était parti là-bas, mais maintenant, mon sentiment, moi, je pense que, bon, c'est tout disparu, quoi. Je pense qu'il a, bon, il a cessé la vie de son épouse et de ses enfants, et de la sienne, d'ailleurs. Parce que, bon, il s'était rendu compte, bon, que ma belle-sœur avait couché avec un autre homme, et là, bon, il supportait pas, quoi. Il était assez orgueilleux. De toute façon, nous, on était assez liés. Nous, on était les deux derniers garçons, hein. Nous, on était assez liés. On avait pas mal de communication. Je pense que, bon, il communiquerait, parce qu'à l'heure actuelle, il aurait 77 ans, quoi. Avec les années, je vous dis, je pense que on le verra plus jamais, quoi. Parce qu'on a fait plusieurs recherches. Hein. Même il y a deux ou trois ans, on avait recommencé avec la gendarmerie de Cognac et ça n'a pas abouti, quoi. On n'a rien retrouvé. Ils ont fait des recherches infernales et bon, je pense que vu le cas son caractère, enfin, maintenant c'est ma déduction, quoi. Je pense qu'il a fait tout disparaître, quoi. Bien sûr, on a toujours espoir, mais enfin, vous savez, hein, 45 ans après, je crois que c'est fichu, hein.
On sait ce que vous pensez, Robert Richard. Je rappelle que vous avez été maire de Boutier de 1980 à 2014, mais vous êtes toujours là dans la région et tout le monde vous en parle. Encore dans le train en venant, vous m'avez dit hors micro tout à l'heure.
Avec des amis qui... Non, mais moi, je partage ce point de vue. Je pense qu'effectivement, il y a de toute évidence aucune chance pour qu'il puisse être vivant quelque part ailleurs. La problématique maintenant, c'est que le temps ayant passé, enfin, on peut imaginer que des enfants, voire même lui, à 77 ou 18 ans, il aurait pu être tenté de reprendre contact. Non, c'est pas... Et quand on l'évoque, enfin, bon, je vous dis, comme on disait, de manière redondante, ça vient de temps en temps dans les discussions avec les habitants de la commune. Bon, tout le monde évoque la disparition des Méchinos. La question, c'est où sont-ils ? Et in fine, la réponse majoritaire, ils sont morts. C'est ce qui vient dans les discussions. Alors, en même temps, je dirais que c'est la caractéristique de cet événement, c'est que ça laisse malgré tout quelque part une part d'espoir. On se dit à un moment, il a chapeau, il a été fort, si aujourd'hui ils sont encore en vie. Voilà. Et quand bien même, si même aujourd'hui ils sont morts, il a tout aussi été fort. Puisqu'à un moment, il faut que le dernier éteigne la lumière.
Ouais, Jean Berthelot.
C'est ça qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'aucune des hypothèses n'est crédible. Ni leur disparition, ni leur mort, rien ne se tient.
Oui, voilà. Alors moi, c'est pour ça qu'on a redonné le 32-10, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose, quelque part dans le coin. On a l'habitude de dire ça, mais on ne peut pas terminer une émission comme celle-là sans l'exprimer quand même, en me disant, après tout, c'est une bouteille à la mer. Ben, y a quand même quelqu'un chez qui Jacques Méchinot est allé passer plusieurs jours, on l'a raconté. Je ne le savais pas en commençant cette émission. Est-ce que cette personne ne peut pas prendre contact, je ne sais pas, avec l'ancien maire, avec... les journalistes, avec la radio, enfin bon, nous envoyer un petit mot, puis nous dire au moins qu'est-ce qu'il y avait dans ces conversations. Est-ce que Jacques Méchinot lui a dit quelque chose? Je pense que même pour la mémoire et pour tous ceux qui restent de cette famille, c'est vraiment important, si vous savez quelque chose, de le faire savoir un jour ou l'autre, même de façon anonyme. Voilà, ça sera mon petit message de fin. Merci beaucoup donc aux uns et aux autres. On vous souhaite une très belle nuit sur RTL et surtout de bonnes fêtes. Gardez le moral. À bientôt.